Dieu soit loué. Alléluia. Dans la vie, il y aura toujours des hauts et des bas, des expériences dans la vallée. Mais Dieu est toujours miséricordieux. Il vous donne une expérience au sommet de la montagne. Amen. Mais alors que je priais, j'ai vu que le Seigneur était prêt, la main levée, à vous bénir. Je parle de vous, de vos familles. En ce qui vous concerne, vous qui mettez votre confiance en lui, c'est comme si, je le vois ainsi, sa main est déjà impatiente de vous bénir. Amen. Avec la plénitude de tout ce qu'il a pour vous. Et c'est un endroit plein de bonnes choses. En fait, la parole que j'ai reçue est un tsunami de bénédiction qui vient vers vous. Lorsque le tsunami frappe, vous ne pouvez pas le combattre. Vous ne pouvez que vous laisser porter par lui. Amen. Je voulais partager avec vous un témoignage qui nous est parvenu. Pour des raisons de confidentialité, nous ne dirons pas qui est cette dame. Elle restera anonyme. Et ce dont elle souffre, cette maladie, ce problème, c'est une habitude dont souffre généralement l'homme, la pornographie. Mais dans ce cas, il s'agit d'une dame. Elle dit qu'elle n'est pas de notre pays, mais d'un autre pays. Je menais une longue bataille contre la pornographie et je n'avais aucun moyen de m'en sortir. Je savais que c'était mal, et pourtant je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai essayé de toutes mes forces de m'arrêter, mais je n'y arrivais pas. J'avais honte, et j'étais dégoûté de moi-même. J'ai failli abandonner, mais Dieu soit loué, il ne m'a pas laissé partir si facilement. J'ai commencé à écouter les sermons du pasteur Prince et j'ai été inspiré par les témoignages qu'il partageait. Le désir de regarder de la pornographie n'a pas disparu immédiatement, mais j'ai continué à écouter la parole de Dieu et à y croire. J'ai également commencé à déclarer que je suis la justice de Dieu en Christ. Dieu savait qu'il y avait tant de problèmes en moi. Pendant 3 longues années, il m'a conduit à traiter chacun d'entre eux. Il a littéralement découvert les profondeurs de mon âme. C'était tellement embarrassant, mais en même temps magnifique, que le Créateur de l'univers prenne le temps de m'aider. Je n'avais jamais cru qu'il se souciait de moi ou qu'il m'écoutait. Pourtant, il le fait. Il a entendu mon appel à l'aide et m'a répondu. Le paragraphe suivant est important, et c'est la raison pour laquelle je le partage, ce témoignage reçu récemment. Je me suis libéré de la pornographie lorsque j'ai entendu le pasteur Prince parler de Samson dans son sermon « Marcher dans une foi et une victoire plus grande ». Et alors j'ai enfin compris que la luxure pouvait provenir du rejet dans l'enfance. J'ai parlé de Samson à cause de son appel particulier. Il a dû garder les cheveux longs. À l'époque, il avait fait le vœu du Naziréat. Il ne pouvait pas se couper les cheveux, mais les enfants sont des enfants. Ils peuvent être assez cruels. Il se moquait de lui. Le nom de Samson en hébreu, c'est Shimshon. Les enfants l'appelaient peut-être Shimshona, qui est la version féminine de Samson. Il se moquait de lui. Et le vœu que ses parents ont fait devant Dieu, c'est qu'il ne touche pas aux raisins. D'accord ? Et durant la saison des raisins, pendant la période des vendanges, la récolte du raisin et tout le reste, c'est un événement des plus joyeux. Et Samson ne pouvait que l'observer de loin. J'ai parlé du fait que c'est le père qui devait emmener Samson à la chasse. Faire des choses viriles en disant à Samson, « Ces garçons s'amusent. C'est des enfantillages. Toi et moi, nous sommes des hommes. Amen. » Faire en sorte qu'il se sente spécial. Mais le père était un père faible. Manoac était un homme faible. Dans mon sermon, j'explique pourquoi il était un homme faible. Et bien souvent, les hommes faibles produisent des enfants qui grandissent en ayant des problèmes avec la luxure, qui se manifestent plus tard par l'adultère ou la pornographie. Et combien de fois le problème de la luxure peut provenir d'un rejet ou d'un sentiment de rejet? Il est étonnant de constater que les enfants sont souvent innocents, mais quand ils sont maltraités, ils grandissent en maltraitant les autres. S'ils sont abusés sexuellement, ils abusent sexuellement des autres. Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour savoir que, statistiquement, de nombreux enfants qui sont victimes d'abus sexuels ont le même problème lorsqu'ils grandissent. Et c'est pourquoi nous devons briser la malédiction au nom de Jésus. Amen. De nombreuses personnes essaient de faire face à la luxure, mais elles retombent dans le même piège. Non, il faut faire face au rejet. Gérer ce sentiment de manque d'amour, que vous n'êtes pas désiré, ou que vous avez l'impression d'avoir grandi et que votre père est... Même si vous avez déjà un père, mais votre père n'est pas communicatif. Il a un bouclier qui s'appelle le journal ou l'ordinateur portable, vous savez, cela signifie « ne t'approche pas, ne me parle pas », n'est-ce pas? Il est donc présent, mais il est absent sur le plan émotionnel. Ce qui fait que vous ressentez le rejet. Et les enfants sont incroyables. Ils pensent comme ça. Vous comprenez? Je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup d'enfants se sentent ainsi. Lorsqu'ils sont maltraités, ils ne rejettent pas la faute sur le coupable. Ils s'en prennent à eux-mêmes. Lorsque leurs parents divorcent, ils n'en veulent pas à leurs parents. Ils s'en prennent à eux-mêmes. Ils ont l'impression d'être responsables du divorce de leurs parents et d'être responsables des abus sexuels qu'ils ont subis. Ils ont honte dès leur plus jeune âge. Et la honte, lorsqu'elle vous est infligée, vous pousse à répéter le cycle de la dépendance. Vous me suivez jusqu'ici, n'est-ce pas? Elle a donc entendu le sermon sur Samson et a compris que la luxure pouvait provenir d'un rejet dans l'enfance. J'ai dû faire face au rejet et à la douleur d'être issue d'une famille monoparentale et de croire au mensonge selon lequel je n'étais pas aimé. Vous pouvez être issu d'une famille monoparentale. Cependant, le Seigneur peut être votre père, d'accord? Le Seigneur peut être votre grand frère. Vous pouvez profiter de cet amour qui a chassé toutes les peurs, qui a chassé tous les rejets. Mais elle dit que c'est ce qu'elle a fait. C'est lorsque j'ai accepté et traité le sentiment de rejet que j'ai accepté l'esprit de filiation qui m'a été donné par mon Père Céleste. Maintenant, je suis libéré de la pornographie. Dieu soit loué. Je n'ai pas peur de faire face au rejet lorsqu'il se présente, car je sais qu'en Christ, je suis forte parce qu'il a gagné la guerre. Merci, Pasteur Prince, d'avoir partagé l'évangile de la grâce. Il change véritablement des vies, et le peuple de Dieu dit « Amen, 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 Amen ». Louez le Seigneur. Très bien. Romains 3 nous dit très clairement, étant justifiés gratuitement, combien d'entre vous savent qu'ils sont justifiés? Justifiés et justifiés veut dire « comme si je n'avais jamais péché ». Combien d'entre vous voudraient venir à Dieu et que Dieu vous considère, non pas comme si vous ne péchiez pas, mais comme si vous n'aviez jamais péché? Le terme « justifié » renvoie à l'idée d'un acquittement. Et non seulement cela, il n'y a aucune raison pour que Dieu fasse cela, d'accord? Mais c'est sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ. Pour vous, c'est donc gratuit. Vous n'avez pas à le mériter, c'est gratuit. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire. Un grand mot, je vais y venir. Par la foi en son sang. Que signifie propitiatoire? Propitiatoire est un mot que nous n'utilisons plus de nos jours. Mais il est littéralement dans le grec. Pour info, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le mot propitiatoire. Dans la version grecque de l'Ancien Testament, le propitiatoire est appelé hilasterion. Ici, il s'agit de hilasterion, le mot grec signifiant propitiatoire. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qu'est un propitiatoire, d'accord? Vous pouvez prendre ceci, le conserver pour vous, cela vous bénira. Vous avez la certitude que Dieu écoute vos prières. Puis-je avoir un bon amen? Intéressons-nous maintenant à l'Arche de l'Alliance. L'Arche d'Alliance, voilà à quoi elle ressemble. Amen. Elle est constituée d'un coffre en bois oblong. Vous voyez ce que je veux dire? Et le bois est un bois spécial. C'est un bois imputrescible. Il s'agit d'un bois très robuste et fort. Et imputrescible, car il est presque immunisé contre toute autre maladie. Et Dieu a utilisé ce type de bois, l'acacia, pour illustrer le caractère physique de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est incorruptible. Ensuite, le tout est recouvert d'une couche d'or. Vous savez quoi? Laissez-moi vous faire une démonstration, d'accord? Il y a une vidéo que je vais vous montrer. Tout d'abord, le bois. La pleine humanité de Jésus-Christ. L'histoire de Noël. Il est venu en tant qu'homme, recouvert d'or, de divinité, l'extérieur et l'intérieur, également l'intérieur recouvert d'or. Ce sont les douelles, le bois, et elle aussi recouverte d'or. Et qu'est-ce qui les recouvre? Le propitiatoire. Il est fait d'une seule plaque d'or. L'ensemble est ciselé, ou plutôt battu, dans une seule plaque d'or. C'est le propitiatoire. Le propitiatoire recouvre l'arche. Si vous la soulevez, c'est une boîte vide. Mais il y a des ingrédients. Je veux dire qu'il y a des choses à l'intérieur. Et principalement trois choses. Mais pour notre propos d'aujourd'hui, faute de temps, je vais simplement vous dire que la principale chose qui s'y trouve, ce sont les 10 commandements sur 2 pierres, les tablettes des 10 commandements. C'est pourquoi l'Arche d'Alliance est également connue sous le nom d'Arche de la Loi. L'Arche de l'Alliance, à cause des 2 tablettes de pierre écrites de la main de Dieu, les 10 commandements. Dans l'Exode 25, il est dit ceci, « Et les chérubins étendront leurs ailes plus bas, et tu mettras le propitiatoire sur l'arche, par-dessus. Voici donc une boîte. Elle contient les 10 commandements. N'oubliez pas que cette boîte de l'Ancien Testament est une image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une aide visuelle pour que les enfants d'Israël puissent comprendre. Il est pleinement humain, c'est le bois. Il est pleinement divin, Dieu. Dans le chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, il est dit de Jésus qui, étant le resplendissement de sa gloire, c'est de l'or à l'extérieur, de l'or à l'intérieur et l'empreinte de sa substance. C'est l'or qui se trouve à l'intérieur, amen, et soutenant toute chose par la parole de sa puissance. Remarquez qu'il y a une couronne d'or tout autour, c'est la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés. C'est tout le propitiatoire. Ainsi, vous trouvez l'Arche d'Alliance dans le verset même de l'Épître aux Hébreux, d'accord, montrant notre Seigneur. Maintenant, regardez. C'est ainsi qu'il abritait les 10 commandements. La Bible dit de Jésus qu'il a dit au Père, « Ta loi est au-dedans de mes entrailles. » Je vous ai dit tout à l'heure que personne ne peut observer la loi. Personne. Tu ne commettras pas d'adultère, par exemple. Jésus a dit que même si vous déshabillez une femme avec les yeux, d'accord, vous commettez déjà l'adultère avec elle dans votre cœur. En d'autres termes, il n'est pas là pour nous écraser, mais il nous amène à réaliser que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Amen. J'ai dit que nous avons tous besoin d'un sauveur. Nous ne pouvons pas observer la loi. Et pourtant, il y a des gens qui croient qu'ils peuvent l'observer. En d'autres termes, je fais de mon mieux. Pasteur Prince, je fais de mon mieux. Dieu sait que je fais de mon mieux. La loi ne comprend pas « je fais de mon mieux ». Lorsque vous vous présentez devant un tribunal, vous ne pouvez pas dire « je fais de mon mieux ». Je fais de mon mieux pour ne pas rouler trop vite. Pour eux, c'est « avez-vous fait un excès de vitesse ou pas ?» Bon, vous ne voulez pas dire « amen ». Amen, amen, Pasteur Prince. Amen. Il est étonnant que nous nous jugions les uns les autres sur la base de nos actes. Nous jugeons les autres sur leurs actes. Nous nous jugeons nous-mêmes sur nos intentions. Avez-vous remarqué cela? Nous jugeons les autres en fonction de leurs actes. Nous nous jugeons à travers nos intentions. Mais je voulais. Mais en fait, ce que je voulais. Mais je voulais. Le tribunal ne reconnaît pas ce que vous vouliez faire. Il ne reconnaît que ce que vous avez fait. N'ai-je pas raison? La loi peut donc être dure. N'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu dit que la loi ne se trouve qu'à un seul endroit, dans les entrailles d'une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul à avoir accompli toute la loi. En ce qui concerne vous et moi, Dieu dit, en d'autres mots, construisez un propitiatoire et placez-le au-dessus de l'arche. Remarquez que les 4 côtés du propitiatoire recouvrent entièrement l'arche, qui abrite les 10 commandements. Et Dieu dit, ne laissez jamais les 10 commandements sortir. Le propitiatoire doit le couvrir. Et c'est pourquoi le mot propitiatoire, en grec hilasterion, signifie aussi couvercle de l'arche de l'Alliance, en hébreu kaporet, qui signifie couvercle, qui vient du mot kafar. Il s'agit de la troisième forme, la troisième voie, la forme intense de l'hébreu kafar. Il ne s'agit pas seulement d'une couverture, d'un couvercle. C'est la forme intensive du mot qui signifie couvrir entièrement, expier entièrement, couvrir éternellement, enlever éternellement nos péchés. C'est sur le propitiatoire que le sang est répandu. Une fois par an, le grand prêtre vient au Yom Kippour, le jour de l'expiation. Disons que c'est le propitiatoire, d'accord? Disons que c'est le propitiatoire. Il entre dans le Saint des Saints, le lieu extrêmement saint, le Saint des Saints. Et il vient devant les chérubins. Et il asperge de sang le propitiatoire. Tant que le sang sera sur le propitiatoire, Dieu continuera à bénir Israël. Israël peut s'attendre à une bonne récolte dans l'année à venir. Israël peut s'attendre à ce que tous ses ennemis venant contre lui soient vaincus. Israël peut s'attendre à la bénédiction sur sa famille, laissant chaque homme sous sa vigne et son figuier, et s'attendre à ce que chacun ait une riche récolte. Amen. À ce que leur vie de famille soit bénie, tant que le sang est sur le propitiatoire. Amen. L'Arche d'Alliance est donc aussi une image du trône de Dieu, d'accord? Pourquoi les chérubins sont-ils là? Les chérubins, à quoi servent-ils? Pourquoi sont-ils là? La première mention des chérubins, en fait, chérubin, chérubim. Im, im, c'est en fait le pluriel. Ils sont en fait appelés chérubins, ou en hébreu, kérouv. Kérouv. D'accord? Pour nous, le chérubin est un bébé avec des couches, avec une flèche, un arc et une flèche. Cupidon. Pas vrai? Comme la chanson. Au cours du service précédent, l'un des leaders a dit qu'il connaissait cette chanson, ce qui a révélé de quelle époque nous sommes, notre génération. Et il avait l'air d'être une victime de Cupidon, je ne sais pas pourquoi. Je lui ai demandé s'il avait été trompé dans son mariage, mais il n'a rien voulu dire. Bon, passons. Quand on dit Cupidon, on a l'image d'un bébé joufflu. Mais en fait, au plus haut de la hiérarchie des anges, ce sont les chérubins, d'accord, les kéroubes. ou le pluriel, les kérubim. Aujourd'hui, ils sont deux. Je crois qu'à l'origine, il y en avait trois. Parce que Dieu travaille à trois, en groupe de trois, n'est-ce pas? Trois quarts. Lucifer était l'un d'entre eux. La Bible dit, dans un des passages de l'Ancien Testament, Dieu a parlé de Satan. Avant d'être Satan, il était Lucifer. Dieu lui dit, « Tu étais un chérubin oint. » Il était un chérubin oint, un archange très puissant. Il a emmené avec lui un tiers des anges qui sont devenus des démons. Et c'est pourquoi il y a des activités démoniaques aujourd'hui. Les Chinois l'appellent Hong, vous savez. Ils disent « Je sens comme un vent ». Ils ressentent une douleur ici, ou là, ou encore là. Lorsqu'ils sont confrontés à leur belle-mère, ils sentent la douleur dans leurs yeux, vous savez. Et parfois, la douleur peut se propager. La douleur peut passer d'ici à là, et la douleur peut passer d'un endroit à un autre. Et il est étonnant que la science médicale, faisant de son mieux, et nous remercions Dieu pour les médecins, ils font un travail très noble et altruiste en bénissant, en aidant l'humanité, en soulageant ses souffrances. Mais personne ne peut s'occuper des esprits. Les choses qui passent, les douleurs qui passent d'une partie du corps à l'autre, il faut les traiter. C'est un démon. Il faut s'en occuper. Il ne peut pas être éliminé. Même s'il est éliminé, il peut passer à un autre organe. C'est pourquoi seul le nom de Jésus peut y mettre fin. Est-ce que vous écoutez? Ainsi, un tiers des anges ont suivi Lucifer et sont devenus Satan et tous ses serviteurs, ses minions. Pas ceux qui sont jaunes. De nos jours, le monde est à l'envers. Un chérubin aussi est aujourd'hui mignon comme tout. C'est comme cela que le diable essaie de tout transformer, pas vrai? Comme les expressions du genre « être beau comme un diable ». Avez-vous vu le diable? Beau comme un diable. C'est comme le gâteau du diable. Oh, vous savez, ce qui est vraiment bon est bon à en mourir. Vous mourrez, vous ne pouvez plus en manger. Il faut vivre pour cela. Nous plaisantons avec la mort. Mais il s'agit là d'un tout autre sermon. Mais voici ce qu'il en est. Faites attention au relookage de certains mots, d'accord? Présentant le diable comme étant plus intéressant et excitant qu'il ne l'est. Laissez-moi vous dire ceci. Vous ne savez pas ce qu'est l'excitation. Tous les organes placés dans votre corps sont conçus par Dieu, pas par le diable. Le diable ne peut que prendre ce qui existe et le pervertir. D'accord? Bon, regardez ceci maintenant. Une fois par an, le sang est mis sur le propitiatoire. Je parlais tout à l'heure des chérubins. La première mention de chérubins se trouve dans Genèse 3. Il chasse à l'homme. L'homme a été pris en proie et séduit par le diable. C'est la première mention d'une chasse à l'homme dans la Bible. Il chasse à l'homme. Certains d'entre vous prennent des notes. Mais je plaisante, les amis, c'est pour rigoler. Il, c'est-à-dire Dieu, chassa l'homme et plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame de l'épée qui tournaient ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, après qu'Adam et Ève aient péché contre Dieu, le premier homme, l'homme et la femme, vous connaissez l'histoire de l'homme, Adam et Ève. Ève qui demande à Adam, « M'aimes-tu ? » Adam se retourne et dit, « Qui d'autre aimer ?» D'accord, le premier homme et la première femme, quand ils ont péché, leur péché a entraîné. Vous voyez, c'est pourquoi le péché est dans le sang. Le péché ne s'apprend pas. Le péché est dans le sang. Et depuis lors, tous les hommes ont le péché dans le sang. Ainsi Dieu chassa l'homme. Mais remarquez, l'instrument, l'agence par laquelle il l'a fait, les chérubins. Ce sont des archanges puissants. Ils ont chassé l'homme et la femme. Je crois que les deux autres sont Michael et Gabriel. Pasteur Gabriel. Gabriel, Michael, et le troisième est tombé. Voici donc le drame des siècles, la raison pour laquelle la souffrance existe dans le monde. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que vous vieillissiez, que vous soyez malade, que vous mouriez. Dieu n'a jamais voulu cela. C'est pourquoi Jésus a pleuré, suite à la mort de Lazare. Jésus a pleuré. Il s'est souvenu du plan du Père. Il s'est souvenu de son plan pour l'homme. Il n'a jamais, jamais voulu que l'homme meure. C'est pourquoi tout ce qui est en nous lutte contre la maladie. Tout ce qui est en nous lutte contre la mort. Tout ce qui est en nous lutte contre la vieillesse, la perte des facultés et tout le reste. Tout ce qui est en nous se bat contre cela car nous savons que nous ne sommes pas nés pour cela. Lors de sa venue, Jésus a dit « Je suis venu afin qu'elles aient la vie ». Jésus, pourquoi es-tu venu ? Je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Il y a donc des gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de propriétés, qui n'ont pas une vie plus abondante, qui vivent dans la dépression, dans les conflits, dans l'anxiété. Leur tension artérielle monte et descend comme les actions en bourse. Leur bonheur dépend du fait que la Chine et l'Amérique deviennent de bons amis ou pas. Non, Jésus dit, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Pourquoi es-tu venu, Seigneur ? Je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Bon, vous êtes avec moi jusqu'ici. Remarquez qu'ils ont une lame d'épée. Cela signifie qu'ils sont les gardiens de la... De quoi ? De la gloire de Dieu. Ils sont les gardiens de la sainteté de Dieu. De la gloire de Dieu. Ils ont chassé l'homme. Dès que l'homme s'est rebellé contre Dieu, qu'il a désobéi à Dieu, ils ont chassé l'homme et la femme. Dans un monde qui chutait lentement, qui chutait, qui tombait parce que l'homme avait chuté. La couronne de toute la création est tombée. Cela a affecté la nature, cela affecte la création. C'est d'ailleurs la première mention jamais faite dans la Bible. La première mention est très importante, c'est la loi de la première mention. Il y a aussi une loi qui s'appelle la loi de la dernière mention. Dans l'Ancien Testament, la première mention de l'épée, qui est une image du jugement, se trouve ici, d'accord ? Pour garder le chemin de l'arbre de vie. La dernière mention de l'épée se trouve dans le livre de Zacharie, dans l'Ancien Testament, où il est dit que Dieu le Père parle. Il dit « Épée, réveille-toi, contre mon berger ». Qui est le berger ? Qui est le berger de Dieu ? Notre Seigneur Jésus. Et Dieu dit « Réveille-toi, épée du jugement », l'épée dans Genèse 3. Réveille-toi, épée, et range-toi dans le sein du Sauveur, le berger Sauveur. Vous savez quoi ? Il n'y a plus d'épée pour nous barrer la route de la présence de Dieu. Jésus nous a ouvert la route en allant à la croix, amen. Et l'épée du jugement est maintenant à jamais rengainée. Vous pouvez venir librement. Donc, une fois par an, pour reconstituer cette scène, le grand prêtre entre dans le sein des saints. D'accord ? Et il asperge le sang une fois sur le propitiatoire. Une seule fois suffit à Dieu. La mort de Jésus, une fois pour toutes, il a versé son sang. Amen. C'est tout ce qu'il faut. Maintenant, une fois sur le propitiatoire et sept fois devant le propitiatoire. Pourquoi sept ? C'est le nombre de la perfection. Vous et moi, aujourd'hui, lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous avons une position parfaite. Vous avez une position parfaite. Amen. Non seulement cela, mais pourquoi cette fois ? Encore une fois, parce que nous avons besoin de nous rappeler encore et encore et encore que malgré nos péchés, malgré le fait que nous n'ayons pas toutes nos cartes en main, nous pouvons venir à Dieu et nous ne regardons pas à nous-mêmes, au bien ou au mal que nous avons fait. Nous regardons au sang de Jésus. Tant que le sang est sur le propitiatoire et qu'il a été versé par Jésus, Dieu aujourd'hui, et les chérubins ne regardent pas la loi violée. S'il n'y a pas de sang, ils verront la loi. Et la loi dit, si vous me désobéissez, je vous maudirai. Et je paraphrase, mais le chérubin regarde maintenant le sang et le sang dit, vous méritez la mort. Vous méritez la mort. Vous méritez la mort. Vous méritez la mort. Mais quelqu'un est déjà mort. Le sang est la métonymie de la mort. Le sang signifie la mort. Jésus a versé son sang. Ainsi, le jugement le plus sévère, la malédiction, peut frapper l'homme pécheur, en plus de la maladie, de la pauvreté et de la dépression. Quel est l'objectif ultime ? Roulement de tambour ? Mati. La mort. C'est ce qui vient à la fin, n'est-ce pas ? N'ai-je pas raison ? C'est la dernière chose. Le châtiment ultime pour l'homme est la mort. Ainsi, à la croix, lorsque Jésus a versé son sang, souvenez-vous de ceci, Dieu a tant aimé le monde. Autre chose que je dois vous dire, même les croyants se trompent. Savez-vous que nulle part dans le Nouveau Testament, il est dit que Dieu doit se réconcilier avec l'homme ? Jamais. Même notre hymne dit, notre chant de Noël, « Dieu et l'homme réconciliés ». En fait, la réconciliation de Dieu avec l'homme n'existe pas. Le Nouveau Testament ne le dit nulle part. C'est toujours l'homme qui se réconcilie avec Dieu. Ce qui implique quoi ? L'inimitié n'est pas dans le cœur de Dieu. Elle est dans le cœur de l'homme. C'est l'homme qui pense « Dieu veut ma peau. Dieu veut me juger. Dieu n'est pas bon. Dieu me cache des choses. » Et le diable arrive et dit, « Vous voyez, de tous les arbres que vous pouvez manger, vous ne pouvez pas manger de cet arbre. Mais pensez à tous les arbres desquels vous pouvez manger. » Mais le diable est toujours en train de dire, « D'essayer de produire des idées rebelles et tenaces dans votre cœur à l'égard de Dieu. » C'est pourquoi Paul dit, et je paraphrase, « Je prêche la repentance envers Dieu. Changez votre mentalité à l'égard de Dieu. C'est un Dieu bon. » Dieu n'a pas besoin d'être réconcilié. La mort de Jésus n'a pas mis Dieu de bonne humeur. La mort de Jésus n'a pas mis Dieu dans une position favorable. Dieu était déjà conciliant avant la mort de Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé en premier ? La mort de Jésus ou Dieu a tant aimé le monde ? Dieu nous a aimés alors que nous étions dans le péché, avant même la venue de Jésus. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique, car il nous a aimés, vous et moi, et son Fils est mort sur la croix pour nos péchés. Amen. Ainsi, le prix de nos péchés a donc été payé, et le sang est maintenant aspergé sur le vrai propitiatoire dans le ciel. Jésus est notre propitiatoire. Et maintenant, à cause du sang, quand vous venez à Dieu, écoutez, la seule chose que le sang de Jésus fait lorsque Dieu reçoit l'homme, c'est que ce sang versé rend Dieu juste. Dieu est juste en rendant l'homme pécheur juste à ses yeux. Dieu n'est pas miséricordieux en vous rendant juste. Grâce au sang de Jésus, la sainteté de Dieu, toutes les exigences de la sainteté de Dieu sur votre vie sont entièrement accomplies par le sang de Jésus. Il n'y a plus de revendication sur vous. Elle est entièrement remplie. Toutes les exigences de la loi sont pleinement accomplies dans le sang du Christ. D'accord ? Toute l'obéissance que Dieu exige de vous en vertu de la loi est entièrement accomplie dans le sang de Jésus. Autrement dit, le sang de Jésus. Quand nous voyons ce qu'il a fait, pour Dieu, la seule chose est qu'il rend Dieu juste. Il donne à Dieu le juste fondement pour vous rendre juste. Puis-je avoir un bon amen ? Et savez-vous qu'aujourd'hui, vous et moi, nous ne sommes pas encore parfaits, pas même le pasteur Marc. Ainsi, lorsque nous nous adressons à Dieu, même si nous savons que nous n'avons pas été à la hauteur, même si nous savons que nous avons des problèmes dans notre vie, il ne s'agit pas de vous regarder, que vous soyez bon ou mauvais. Il s'agit de regarder le sang de Jésus et de savoir que Dieu n'a que du bien à vous offrir. Dieu n'a rien, pas de jugement. Il n'y a plus de jugement pour celui qui croit. Vous entendez ce que je dis ? C'était l'homme. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu ne se réconciliait pas avec le monde. Dieu n'a pas besoin de réconciliation. L'inimitié est du côté de l'homme. Et Dieu dit à tous les hommes, « Revenez à la maison vers moi. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés. » L'homme a donc de mauvaises pensées à l'égard de Dieu. L'homme a dans la tête que Dieu n'est pas de son côté, pas avec lui. Les hommes font de leur mieux, puis sont frustrés. « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas avec mon mieux ?» Mais vous savez que le meilleur de vous-même n'est pas suffisant. C'est abaisser le niveau de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi Dieu ne peut-il pas me pardonner sans que le sang soit versé ? Pourquoi Dieu ne peut-il pas simplement dire « Je pardonne à tout le monde » Mais vous ne dites pas la même chose d'un juge, n'est-ce pas ? Un juge doit être un juge impartial. Pour être un juge impartial, il doit punir lorsqu'il y a des fautes. Pas vrai ? Si Dieu pardonne à tout le monde sans fondement, où est sa justice ? L'univers entier s'effondrera. Dieu dit donc que l'âme qui pêche doit mourir. Mais c'est lui qui a fourni la mort. Il a envoyé son Fils, celui qu'il aime le plus, mourir pour nos péchés sur la croix. Et aujourd'hui, Dieu n'a rien. Écoutez, il n'y a rien d'autre dans le cœur de Dieu que de l'amour pour vous. Est-ce que vous écoutez ? Cependant, il y a eu un cas dans la Bible où quelqu'un a enlevé l'arche, le propitiatoire. Le propitiatoire est censé couvrir les 10 commandements, n'est-ce pas ? Quelqu'un a essayé de l'enlever. C'est le seul cas dans l'histoire. Oh oui, un autre était les aventuriers de l'arche perdue. Indiana Jones. Mais la seule fois dans l'histoire, c'est dans un endroit appelé Beit Shemesh. Lorsque vous irez visiter Israël, demandez au guide de vous amener à Beit Shemesh. À Beit Shemesh, l'arche revint en Israël du pays des Philistins. Et le peuple d'Israël était enthousiaste. Les habitants de Beit Shemesh, plus précisément, ils sont allés à l'arche. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Au lieu d'adorer le Seigneur, d'accord ? Et d'apprécier, ils ont regardé à l'intérieur de l'arche. Vous n'êtes pas censé faire ça. Pourquoi ? Dieu veut que la loi soit sous le propitiatoire. Si vous montrez la loi, devinez quoi ? Soit vous la respectez entièrement, et la loi dit que vous devez la respecter entièrement. Si vous n'en respectez pas une, vous n'en respectez aucune. C'est un ensemble cohérent. N'exposez jamais la loi. Une fois que vous exposez la loi, vous exposez tout le monde à la malédiction de la loi. Car la loi dit, si tu ne me respectes pas parfaitement, je ne peux que te maudire, maudire ta famille. Le jugement viendra. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Les habitants de Beit Shemesh ont regardé dans l'arche, ce qui signifie qu'ils ont repoussé le propitiatoire pour regarder dans l'arche. La Bible dit que beaucoup d'entre eux sont morts. Aujourd'hui, Jésus est notre propitiatoire et personne ne peut l'enlever de sa place. J'ai dit que personne ne peut enlever Jésus de sa place. Puis-je avoir un bon amen ? Alors, mes amis, je veux que vous sachiez quelque chose. En conclusion, affichez 1 Jean 4, s'il vous plaît. Et nous avons connu, je veux que vous lisiez ceci avec moi pour conclure, et nous avons connu Hé, hey, parlez, allez. Pendant tout le service, c'est moi qui parle. À la maison, c'est ma femme qui parle. Si ma femme ne parle pas, c'est mon fils. En fait, Wendy ne parle pas beaucoup. J'aurais aimé qu'elle parle un peu plus. Mais mon fils parle beaucoup, d'accord? Ici, je parle. Et vous ne parlez pas. Je parle pendant si longtemps. Parlez! Essayons encore une fois. Et nous avons... Encore une fois. Nous terminerons par ceci. Il ne suffit pas de savoir. Certains d'entre vous ont entendu le pasteur Prince enseigner « Dieu vous aime ». Il ne suffit pas de savoir. Vous devez croire. Vous devez croire que Dieu vous aime. Remarquez, il ne s'agit pas d'un seul. Il ne dit pas « Nous connaissons l'amour de Dieu ». Non, et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Vous entendez cela? Vous devez croire que Dieu vous aime. Comment Dieu vous a-t-il aimé? Regardez la croix. La plus grande démonstration de l'amour de Dieu pour vous est la croix. Amen. Et puis, chaque jour, il y a des démonstrations personnelles. Tout n'est pas rose dans la vie, n'est-ce pas? Vous traversez parfois la vallée. Même dans les moments difficiles, lorsque Dieu ferme une porte, c'est parce qu'il ouvre une plus grande porte. Si quelqu'un que vous aimez beaucoup vous quitte, c'est parce que Dieu sait que cette personne n'est pas faite pour vous. Elle ne fait pas partie de votre avenir. Vous devez croire que Dieu vous aime. Il vous protège. Même si vous n'êtes pas heureux avec lui en ce moment, il vous aimera suffisamment pour vous décevoir parce qu'il voit que votre avenir est meilleur. Mais nous ne disposons pas d'une vue d'ensemble, alors laissez-moi simplement dire ceci. Il ne suffit pas de comprendre ce qu'est la croyance. Pourquoi ? Permettez-moi d'illustrer mon propos par une histoire, celle du fils prodigue. Les gens oublient que c'est Jésus qui a raconté cette parabole à propos d'un homme qui avait deux fils. Et le plus jeune dit, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage. » En Israël, c'est comme si l'on disait, « J'ai hâte que tu meurs. Je veux mon héritage tout de suite. » Alors le père lui a donné l'héritage. Il est parti dans un pays lointain et a dépensé tout son argent pour vivre dans l'opulence. Quand il n'y a plus eu d'argent, ses amis ont disparu. Il ne lui restait plus rien. Mais sa vie commençait à devenir d'une pauvreté abjecte. Son seul repas était dans la porcherie. Et pour un juif, c'est tomber au plus bas, être dans l'enclos avec les cochons, regarder la nourriture des cochons et se retrouver à envier ce qu'il mange. La Bible dit qu'il est revenu à lui et qu'il a dit, « Dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. » Je pense que je me lèverai et je m'en irai vers mon père et je lui dirai, « Père, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » En d'autres termes, il ne croit toujours pas que son père l'aime. Il essaie de retourner gagner son pain. Laissez-moi vous poser une question, d'accord? Et cela s'adresse aussi aux croyants. Vous m'avez peut-être entendu prêcher que Dieu vous aime. Je vous demande si vous y croyez. Pendant que le fils était loin du père l'aimait-il? Quand le fils était déprimé dans la porcherie, le père l'aimait-il? La réalité, le père l'aimait-il? Mais il était toujours déprimé. Pourquoi? Il n'y croyait pas. Quand il est tombé dans la misère, quand il est tombé dans la disgrâce sociale, est-ce que le Père l'a aimé? Le Père lui a-t-il pardonné tous ses péchés? Mais était-il encore dans cet état? Oui. Ainsi, le fait que Dieu vous aime ne change pas votre vie si vous n'y croyez pas. Certains disent, « Pasteur Prince, j'écoute tout le temps vos sermons. Il ne s'agit pas d'écouter mon sermon. Croyez-vous que Dieu vous aime ?» Alors qu'il était dans une pauvreté abjecte. Le père avait-il du pain en suffisance et même à en revendre? Et les richesses de la gloire provenant de ses ressources étaient-elles disponibles pour le fils? Oui. Oui. Le veau gras. Attendait-il? Oui. Le père était-il rancunier? Non. Le père a-t-il pardonné à son fils? Oui. Mais le fils était-il toujours dans la pauvreté? Oui. Pourquoi? Il ne croyait pas. Vous comprenez? La repentance n'est rien d'autre qu'un retournement, un repentir vers Dieu. Beaucoup de gens pensent que se repentir, c'est se dire « Je me repens de telle ou telle action ». Or, vous ne pouvez pas vous repentir suffisamment d'une quelconque action, car vous ne vous repentez que des actions dont vous êtes conscient. Qu'en est-il de celles dont vous n'êtes pas conscient? Nous péchons contre Dieu plus souvent que nous le pensons. Dieu merci, il pardonne en fonction de la connaissance qu'il a de nos péchés et non en fonction de notre connaissance. Si je m'arrêtais là, je pense que je rentrerais chez moi. Dieu nous pardonne selon ses richesses. Dieu merci, pas en fonction. Je ne peux pas dire de mes richesses. De mon état de pauvreté, plutôt. De ma pauvreté d'esprit. Ou en fonction de ma connaissance de mes péchés. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Sur la base de ma confession, alors que je ne confesse pas grand-chose. Non, il nous pardonne selon la richesse de sa grâce. Il y a quelque chose en celui qui croit que Dieu l'aime. Disons que quelqu'un ne croit pas. Disons que le pasteur Daniel, ici présent, ne croit pas que Dieu l'aime, mais il le connaît intellectuellement, il peut l'enseigner. Je le prends en exemple parce que je sais qu'il croit. Alors je ne risque rien. Disons que Gabriel croit que Dieu l'aime. Même s'ils sont si proches l'un de l'autre, quelque chose chez Gabriel fait que Dieu déverse plus de bénédictions. Ce n'est pas que Dieu l'aime plus, c'est que sa porte pour recevoir la bénédiction est plus grande. Le soleil brille sur toutes les maisons. Mais celles qui ont une plus grande fenêtre reçoivent plus de lumière. Ce n'est pas que Dieu dit « Wow, le soleil te favorise plus, hein ? Tu as plus de lumière dans ta maison. » Non, non, c'est que celui-là ouvre la maison au soleil. Mais ceux qui mettent des volets tout le temps, comme votre voisin, ou ceux qui sont en première classe, quand vous prenez l'avion, ils vous regardent et puis... C'est un peu comme s'ils disaient « Si vous travaillez plus dur, vous ne seriez pas en classe éco. » Vous voyez ? Les toilettes, première classe. Quelqu'un qui croit, ouvre grand la porte. Il ne s'agit pas de faire en sorte que Dieu vous aime davantage. Dieu ne peut pas vous aimer plus qu'il ne vous aime déjà. C'est que votre foi est en fait la fenêtre qui s'ouvre sur la lumière du soleil. Plus de foi, plus grande fenêtre. Une petite foi, un petit trou d'épingle. Vous voyez, peu de lumière passe à travers. Mais pendant tout ce temps, la lumière brille. Le Fils aurait pu dire... « Père, je crois que tu m'aimes. » Mais quand il est revenu, il a essayé de se racheter. Il ne croyait pas en l'amour du Père. Et il y a des enfants aujourd'hui, des adolescents aujourd'hui, qui ne croient pas vraiment que leur Père les aime. Tout ce que tu m'as appris, c'est à descendre acheter du café pour toi. Tout ce que tu veux, c'est que je fasse ta fierté et que tu frimes auprès de tes proches. Mon fils est allé à l'université. Ils croient vraiment que ce qu'ils font est bien. Et vous savez quoi? En tant que père, nous avons échoué. Nous avons souvent donné l'impression que notre image était plus importante. L'opinion de nos proches, plus importante. Non, en fait, je sais que beaucoup de pères aiment leurs enfants. Mais si ce n'est pas communiqué de manière à ce qu'ils le ressentent, peu importe combien vous les aimez, cela ne sert à rien. Mon fils doit savoir que je l'aime. Ma fille doit savoir que je l'aime. Ma femme doit savoir que je l'aime, et je dois parler son langage de l'amour, n'est-ce pas? Que vous répondiez ou non, c'est la vérité. Prêchez, Pasteur Prince! Bonne prédication, alléluia! Pasteur Prince, prêchez encore! Ils ne disent pas oui, amen! Vous prêchez encore une heure! Je vais conclure. Mes amis, je ne prétends pas tout savoir, mais je connais celui qui m'aime, celui qui vous aime. Amen! Et il veut que nous mettions notre confiance en lui. Et quand vous venez à lui... Regardez le sang, ne vous regardez pas vous-même. Ne regardez pas ce que vous avez de bon, ni même de mauvais. Ne regardez pas à vous-même, regardez le sang. Le sang est là, au vrai propitiatoire dans le ciel, aspergé sur le trône de Dieu, et vous avez une condition parfaite pour vous présenter devant Dieu. Et vos prières ne sont pas destinées à vous faire du bien, à apaiser votre âme. Vos prières ont pour but d'obtenir des réponses réelles, solides et concrètes de la part de Dieu. Oui, Dieu fait des miracles qui transcendent le temps et l'espace. Il peut le faire. Dieu peut inverser les choses. En fait, la Bible dit, et je paraphrase, que Dieu peut vous rendre les années qu'a mangé la sauterelle. Donc, toutes les années et le temps perdu, Dieu peut les rendre. Dieu peut vous donner du vin nouveau. Amen. En un instant, ce qui demande à d'autres personnes un travail laborieux. Amen. Ne les enviez pas. Ne les enviez pas. S'ils connaissaient la vérité, c'est eux qui vous envieraient. Et le peuple de Dieu dit, louez le Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, il y a peut-être quelqu'un ici qui dit, « Pasteur Prince, je suis comme le fils prodigue, je suis comme ce Matthieu qui ne se rase pas, je suis comme la personne qui se dit, « Vraiment, je commence à voir maintenant que Dieu m'aime, mais je n'y crois jamais. » Pasteur, pouvez-vous prier pour moi? Je crois. C'est cela être croyant. Croire en Dieu. Croire quoi à propos de Dieu? Que Dieu vous aime, que Dieu est pour vous, que Dieu a envoyé son Fils pour régler le problème du péché. Amen. Son Fils est le propitiatoire, ce n'est pas un propitiatoire de jugement. Si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, où que vous soyez, je veux vous guider dans cette prière. Répétez après moi, avec votre cœur. Êtes-vous prêt? Seul Dieu sait si vous la prononcez du fond du cœur. Car il s'agit d'un moment intime avec Dieu, au milieu des multitudes ici présentes. C'est toujours un moment personnel. Dites-le avec votre cœur. Dites, Père Céleste, je te remercie de ton amour pour moi. Un amour si fort. Un amour éternel. Un grand amour. Merci d'avoir envoyé Jésus qui est mort pour mes péchés. Seigneur Jésus, merci d'avoir porté le jugement et le châtiment qui devait s'abattre sur moi. Mais tu l'as porté toi-même, de sorte qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'épée de jugement dans mon avenir. Il n'y a plus de condamnation pour moi en Christ parce que tu as tout porté. Et Père, tu l'as conçu de telle manière qu'aujourd'hui, parce que le sang de Jésus a été versé, tous tes attributs sont complètement et pleinement satisfaits. Tu es pour moi, pas contre moi. Tu n'es plus un Dieu lointain. Tu es un Père, tout proche. Jésus-Christ est mon Seigneur. Et Seigneur, je te remercie de ce que, bien que tu aies porté mes péchés sur la croix, tu es revenu d'entre les morts, sans mes péchés. Ils sont tous partis, partis pour toujours. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen, 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 louez le Seigneur. Maintenant, vous êtes né de nouveau. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, vous êtes né de nouveau. Vous êtes sauvé. Vous êtes maintenant dans la famille de Dieu. Il n'y a plus de jugement pour vous, plus de punition. Vous pouvez vous attendre à une vie plus abondante. Amen. Louez le Seigneur. Mettez-vous debout. Cette semaine, le Seigneur vous bénit. Vous et vos familles, des bénédictions d'Abraham, des bénédictions de Deutéronome 28. Les bénédictions du premier-né. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous. Qu'il vous sourie. Qu'il rend droit les endroits tortueux cette semaine. Pas de stress, pas de peur, pas d'anxiété. Mais une paix shalom dans votre cœur pour gouverner tout ce que vous faites. Que le Seigneur lève son regard et vous garde tous en sécurité jusqu'à l'année prochaine. À l'abri de tout mal. À l'abri de tout danger, à l'abri des excès alimentaires, à l'abri de tout mal. Que le Seigneur vous accorde, à vous et à vos proches, sa merveilleuse paix, qui protège votre cœur et votre esprit de toutes les peurs, de toutes les angoisses et de tous les soucis, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen.